Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir de la modération des contenus haineux en ligne. Harcèlement, menaces de mort, propos racistes, sexistes ou encore homophobes, apologie du terrorisme. Chaque jour, des messages d'insultes et de haine sont postés sur les réseaux sociaux, des agressions numériques, individuelles ou collectives, spontanées ou minutieusement préparées, qui ont des impacts bien réels dans le quotidien des personnes concernées. Et puis aussi d'ailleurs dans l'ambiance générale de la vie de beaucoup, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Et l'actualité de cette semaine nous a donné de nombreux prétextes pour nous demander si la modération de la haine en ligne ne serait pas une mission impossible. Alors, où en sommes-nous véritablement? Quelle responsabilité pour les éditeurs et plus largement les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram? Quels sont les moyens d'action envisagés? Pour en discuter ce soir, Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon, ainsi que Amel Guiton, journaliste à Libération. On commence par vous. D'abord, le phénomène, ensuite, quelle régulation, le phénomène?
Alors, de toute façon, la question de la modération, on voit bien que c'est un sujet qui revient à intervalles extrêmement réguliers, voire qui est là tout
chaque
le
jour.
Temps, mais qui, en tout cas, probablement prend en revanche des formes un peu différentes, parce que les thèmes évoluent. Il y a eu beaucoup la question, effectivement, des contenus d'apologie du terrorisme. À une époque, on s'en souvient, en 2015, c'était le sujet, d'ailleurs, qui était beaucoup mis en avant par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui s'était déplacé dans la Silicon Valley. On a eu depuis... Alors plutôt des questions d'appel à la haine et y compris d'impact que ça pouvait avoir dans certains pays. Facebook a été mis en cause à plusieurs reprises sur le fait que effectivement il modérait insuffisamment certains appels à la haine dans certains pays. Effectivement, ça revient. Alors là, ce qui est assez présent ces jours-ci, c'est effectivement la question des appels à la haine de la part de suprémacistes blancs, nationalistes blancs, etc. post-Christchurch. Après l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande, et notamment parce qu'il y a eu la semaine dernière en fait une attaque à l'arme automatique à San Diego dans une synagogue qui a fait un mort et trois blessés, et de nouveau en fait l'attaquant avait alors d'abord annoncé sur un forum son intention d'y aller, et il avait essayé en fait de filmer en direct sur Facebook les faits, et donc on se retrouve effectivement dans un mode opératoire qui est très voisin de celui de Christchurch. Et alors là, on voit bien qu'effectivement, les grandes plateformes de réseaux sociaux sont confrontées à ce type de problème et ont énormément de mal à y répondre. Alors Facebook annonce régulièrement des mesures. Ils ont annoncé un renforcement de leurs conditions d'utilisation. Ils essaient de limiter les copies de vidéos pour éviter qu'elles reviennent en ligne quand elles sont supprimées. Ils veulent aussi mettre en place une fonctionnalité qui ferait qu'un utilisateur qui aurait déjà enfreint les conditions d'utilisation ne pourrait plus poster de vidéos en direct. Sur Twitter, on voit que c'est encore plus compliqué, y compris d'ailleurs parce qu'il y a eu une enquête de Motherboard qui montre que ce que les gens de Twitter expliquent, c'est qu'en fait, s'ils commencent à utiliser par exemple de la détection algorithmique pour bannir certains propos particulièrement offensifs, ils risquent de se retrouver en fait à bloquer, y compris des membres du Parti républicain,
ou même Donald Trump,
soutien de Donald Trump. Mais le cas de Trump, effectivement, on est typiquement dans ce cas limite, c'est-à-dire que Twitter dit on ne peut pas bloquer Trump, y compris par exemple quand il balance des fake news ou quand il met en cause une députée musulmane, etc. Parce que effectivement les citoyens américains ont le droit de savoir ce que pense leur président. Mais voilà, on voit bien qu'on est effectivement dans des choses très complexes. Alors il y a aussi le cas de YouTube où ils renforcent leurs équipes de modération, mais en même temps on sait bien, pour l'avoir vu sur des tas de cas, que leur algorithme de recommandation pousse en fait un utilisateur qui aurait regardé tel type de vidéo à être en permanence renvoyé vers d'autres vidéos du même ordre. Enfin, on a l'impression qu'effectivement c'est une espèce de tonneau des Danaïdes perpétuelles, quoi.
Christian Paul, sur le diagnostic.
Oui, le phénomène est évidemment très très inquiétant et intrigant, parce que on ne peut pas évidemment douter un instant qu'il y a tous les jours en très grand nombre des contenus illicites qui sont en eux-mêmes des délits sur les réseaux sociaux. On voit bien l'impuissance d'une partie au moins des tentatives qui ont été faites pour modérer. Je rappelle d'ailleurs que les plateformes n'ont pas à proprement parler d'obligation juridique de surveillance. Simplement, elles ont une une pression morale, politique, économique peut-être aussi, très forte.
Pour l'instant,
et,
on y reviendra.
Et ce qu'il faut quand même aussi avoir en tête quand on aborde cette question, c'est que la haine, le racisme, l'antisémitisme ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Et il faut toujours s'interroger, avant de légiférer, puisqu'on parlera tout à l'heure de régulation, sur les motifs profonds de ce qui se joue dans une société et dans nos démocraties aujourd'hui. Car le racisme existait sans les réseaux sociaux dans les années 30, ou l'antisémitisme, le racisme dans les années 80 en France par exemple, s'est développé, l'antisémitisme également sans YouTube, Facebook ou Twitter. Donc il ne faut pas confondre les causes et peut-être des vecteurs qui ont une fonction d'amplification, c'est probable, mais il faut toujours se rappeler que les phénomènes de fond ne naissent pas à cause des réseaux sociaux. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que ils sont aussi, c'est quand même ça le point de départ de la révolution numérique, ils sont aussi des vecteurs de la liberté d'expression. Et donc, nous devons, dans nos démocraties, trouver toujours ce point d'équilibre entre la liberté d'expression et aussi, bien sûr, les divulgations permanentes de contenus illicites, mais aussi les abus qu'il pourrait y avoir dans l'exercice de la censure. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de trouver des solutions qui soient efficaces
et qui soient forcément en équilibre.
Parce que l'équilibre est difficile à trouver. Et surtout, on voit bien qu'en permanence, tous ceux qui veulent réagir, souvent sous le coup de l'émotion, à des drames, vous en avez cité, eh bien, courent derrière le phénomène.
Alors, cette semaine, Facebook s'est attaqué à plusieurs comptes importants de personnalités et d'organismes considérés comme dangereux, entre guillemets, qui ont été bannis, ainsi que sur Instagram, des comptes comme ceux de Louis Farrakhan, pourtant fort connu, à cause de la défense du séparatisme noir, ou encore d'Alex Jones, le fondateur d'Infowars, ou encore Milo Yiannopoulos, figure bien connue de l'alt-right. Quant à Twitter, le réseau social déclare réussir à avoir supprimé 91% des contenus terroristes diffusés sur sa plateforme, ce qui veut dire que 9% sont rester quand même, Malguiton.
Non, mais ceci étant, il faut effectivement aussi garder en tête le fait que, notamment depuis 2015, où effectivement ils ont été beaucoup mis en cause, notamment par les politiques et par les gouvernements. Peu à peu, ils mettent en place un certain nombre de choses, mais on a effectivement toujours l'impression que, d'une certaine manière, ça court après cette espèce de d'amplification et de viralité, parce que bien évidemment, ces plateformes, pour tout un tas de mouvements, elles permettent d'avoir une expression publique d'une certaine manière à moindre frais. Et c'est pour ça que, effectivement, les mouvements d'extrême droite y sont extrêmement présents. Et par ailleurs, ce qu'on voit bien aussi, c'est que quand on les, entre guillemets, quand on les chasse, enfin, quelques mouvements que ce soit qui va être, entre guillemets, chassé de Facebook, de Twitter ou de YouTube, va de toute façon réémerger sur d'autres plateformes. C'est ce qu'on avait vu notamment avec cette plateforme américaine qui s'appelait Gab, je crois bien, qui s'est retrouvé à être une espèce de plateforme complètement prise, enfin en tout cas investie très, très fortement par l'extrême droite, par exemple.
Alors si on en vient à la France plus spécifiquement, une entreprise qui s'appelle Netino, entreprise spécialisée dans la modération des contenus, vient de publier un panorama de la haine en ligne. Elle a analysé 10 000 commentaires, essentiellement sur Facebook. Elle constate qu'un commentaire sur 7 contient des propos haineux. Les plus visés seraient les politiques, puis les personnalités au sens large, enfin les médias ou les journalistes. Alors face à ce constat qu'on vient de faire ensemble, quelles sont les possibilités de régulation? Christian Paul, depuis quelques semaines, un projet de loi contre la haine sur Internet est en consultation publique. Ce sera jusqu'au 12 mai. Le débat aura lieu ensuite à l'Assemblée nationale en juin. Un projet de loi baptisée Avia, du nom de la députée La République En Marche, Laetitia Avia, qui l'a défendu, Christian Paul.
Je crois que quand on a affaire à des questions aussi complexes, dans le climat de grande passion qu'elle génère, il faut avoir quelques principes simples. Le premier, c'est évidemment la défense de la liberté d'expression. Il faut le redire, parce que on a quand même, on sent bien une volonté,
Facebook, Twitter,
on voit bien une volonté, et ça date depuis 20 ans, c'est une affaire qui a 20 ans d'âge, vous l'avez rappelé, on voit bien que il y a tentation de légiférer sous le coup de l'émotion, et on peut tout à fait comprendre que des personnes mises en cause personnellement ou en tant que collectif
le souhaitent,
et des réactions qui soient des réactions très passionnées, et bon, ici on va en parler avec un peu de sang-froid. Je crois qu'il est toujours important de rappeler que le droit n'est pas muet sur ces questions. Tous les contenus illicites dont on parle sont illicites parce que le droit le dit de façon expresse.
Mais pas on toujours sait bien suffisamment qu'on n'arrive pas à lutter contre
pas
ça.
Pas toujours suffisamment. Oui, mais la deuxième chose, c'est que dans ces questions, avant de refaire du droit, de réécrire la loi, il faut appliquer celle qui existe. Et ce que l'on constate dans ce domaine depuis longtemps, c'est que la justice, en France et probablement ailleurs, n'a pas les moyens d'appliquer la loi. C'est ça la question essentielle. Et plutôt que de créer des milliers de postes de modérateurs chez Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux, plutôt que de multiplier les organismes de veille, plutôt peut-être même d'ailleurs que de renforcer le pouvoir du CSA, donnons à la justice en France et ailleurs les moyens de travailler. Vous savez, je pense que quelques dizaines de magistrats jeunes ou plus expérimentés, dédiés à la cause du combat contre les contenus illicites et plus généralement contre la cyberdélinquance, pourraient faire un boulot formidable. Donc on devrait commencer par ça, avant même d'écrire la loi ou avant même de chercher des solutions d'autorégulation qui souvent, même si elles sont nécessaires, peuvent conduire à beaucoup d'impuissance.
Amel Guiton.
Faut pas oublier, par exemple, un cas comme celui de la journaliste Nadia Dame, hein, qui a porté plainte pour, effectivement, du cyberharcèlement, et ces cyberharceleurs ont été condamnés. C'est-à-dire que souvent.
Oui, mais combien de temps, combien de procédures, quel coût pour souvent des tweets, c'est-à-dire des choses qui sont rapides à faire, à refaire.
Oui, mais là, en l'occurrence, l'intérêt, y compris l'intérêt au-delà de son cas personnel, l'intérêt symbolique de cette histoire, c'était de faire la démonstration que, effectivement, quand on émet des propos illicites et effectivement quand on pratique le harcèlement en ligne, on peut être condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas, par rapport notamment à tous ces discours sur l'anonymat sur Internet, qu'on ne pourrait jamais remonter jusqu'au perpétrateur, etc. On voit bien que quand il y a plainte, on peut. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Christian Paul, le Conseil national du numérique a regardé la proposition de loi Avia. Il a émis un avis qui est quand même assez critique pour le coup, et notamment un des éléments c'est de dire que le CNNUM en l'occurrence depuis des années propose la création d'un parquet spécialisé pour la lutte contre les contenus illicites. C'est une piste qui n'a malheureusement jamais été explorée, mais parce que le vrai problème, c'est qu'on voit bien aujourd'hui à quel point, en fait, parce que effectivement il y a une massification de la parole en ligne et que les entreprises, enfin, les réseaux sociaux sont aussi effectivement sous pression et court en permanence après ça, on va sans arrêt chercher, alors effectivement, de l'autorégulation, on va mettre de l'IA partout, etc. Et ça veut dire qu'au final, le juge judiciaire, qui est censé être le garant de la liberté d'expression in fine dans un état de droit, est de plus en plus exclu effectivement, on ne fait rien pour le remettre dans la boucle, et il faudrait peut-être effectivement commencer par ça.
Mais parce que justement, est-ce que c'est pas la réponse globale et pas la plus facile et peut-être probablement pas la plus appropriée? Évidemment, la crainte et en même temps la solution de facilité, ce serait de déléguer à des algorithmes et à de l'IA au niveau des plateformes, au niveau mondial, alors qu'en France, on sait qu'on n'a pas les mêmes lois sur la liberté d'expression. Elle est défendue, mais elle est, disons, plus protectrice contre les propos haineux que ne l'est la loi aux États-Unis. Effectivement, le cas de Nadia Dame a créé une forme de précédent symbolique. Est-ce que vous seriez pour une réponse effectivement plus française, plus territorialisée, ou est-ce que finalement on est sur un problème qui nous dépasse et qui à terme appelle ce que Mark Zuckerberg lui-même demandait en début d'année, une régulation internationale?
Christian Paul.
Alors, il est vrai que quand on parle d'Internet, la question des frontières arrive tout de suite. Appliquer l'intelligence artificielle, les algorithmes quand on est Facebook, alors que la législation varie pays par pays, et on sait bien que aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution permet de dire des choses qui en France tomberaient sous le coup de la loi. Donc c'est objectivement très très difficile. Pour autant, on peut sans doute se poser la question de savoir comment on peut retirer ces contenus. Parce que c'est vrai que le juge, c'est punir, en tout cas, il devrait savoir le faire. Il s'est retrouvé l'auteur de l'infraction. La question, au fond, qui est dans le débat public aujourd'hui, c'est combien de temps des contenus comme cela vont rester quand ils ont une grande viralité, quand ils sont effectivement l'occasion de la propagation, alors soit de fake news, on l'a vu ces derniers mois, la question est très présente, ou quand il s'agit d'images qui sont là pour provoquer, pour choquer, images d'attentats, images d'actes terroristes, etc. Et là, c'est vrai que la question, c'est comment, avec quelle rapidité, les plateformes peuvent retirer ces contenus. Et là, je dirais que c'est pas avant tout une affaire de loi, c'est une affaire d'organisation interne de ces plateformes. Elles n'ont pas une obligation de surveillance, a priori, elles ne pourraient pas le faire, mais en revanche, elles doivent retirer des contenus manifestement illicites de la façon la plus rapide possible. Alors, Laetitia Avia propose dans les 24 heures, il y a un texte européen en préparation qui dit une heure pour les contenus terroristes. On voit bien qu'il y a cette course-poursuite contre les contenus illicites sur Internet. C'est une affaire à la fois, je le rappelle, de bonne organisation de la justice. Il faut, encore une fois, rappeler les piliers de l'état de droit. Et c'est aussi, du point de vue de ces entreprises, mettre les moyens pour retirer les contenus.
Merci infiniment à tous les deux, Amel Guiton de Libération, Christian Paul, ancien ministre et enseignant à Sciences Po Lyon. Merci à vous aussi.